Vous écoutez, on lit pour vous.
Le bouclier arc-en-ciel québécois, un texte de Philippe Mercure, paru le 5 août 2025 dans la presse. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Sous l'impulsion des politiques anti-diversité de Donald Trump, toute l'Amérique du Nord est frappée par un recul du soutien aux communautés LGBTQ+. Toutes? Non. Car une petite province résiste encore et toujours à ce triste ressac. Cette province, c'est le Québec. C'est la belle et vraie histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Certes, tout n'est pas rose en matière d'ouverture à la diversité sexuelle ces temps-ci, même ici. Le festival Fierté Montréal est secoué par une crise interne, mais cette belle histoire a de quoi nous rendre fiers d'être Québécois. C'est d'abord un article du New York Times qui a attiré mon attention. Nous avons atteint la fin du capitalisme arc-en-ciel, a titré le quotidien new-yorkais. J'avoue que je ne connaissais pas l'expression. Le capitalisme arc-en-ciel, ce sont ces entreprises qui courtisent la clientèle gay de manière plus ou moins subtile. Pensez, peindre son logo aux couleurs du drapeau gay et tartiner des arcs-en-ciel un peu partout. Aux États-Unis, l'assaut des mouvements conservateurs contre les initiatives d'équité, de diversité et d'inclusion, EDI, a considérablement refroidi la tendance. Des marques comme Bud Light et Jack Daniels ont été victimes de boycottage après s'être associées à des personnalités queers. Depuis, plusieurs entreprises ont mis la hache dans leur politique EDI et craignent désormais d'afficher leur soutien aux communautés LGBTQ+. Mon collègue Mario Girard a récemment rapporté que le mouvement a gagné Toronto, où trois commanditaires ont largué Pride Toronto. Fierté Montréal, pourtant, est épargnée. Comment cela s'explique-t-il? Les mouvements qui gagnent du terrain ailleurs sont-ils présents chez nous? C'est ce que je voulais explorer. Du côté de Fierté Montréal, le directeur général Simon Gamache m'a expliqué plus tôt cet été, avant de s'absenter pour un congé de maladie, que le festival dépend très peu des grandes multinationales américaines. On s'est développé en mettant de l'avant des entreprises canadiennes et québécoises, dit-il. C'est un choix qu'on a fait depuis longtemps et qui fait en sorte qu'on est moins dépendant de ce qui se passe au sud de la frontière. La bonne nouvelle est que les entreprises locales ne montrent pas la frilosité observée aux États-Unis. Résultat, le financement de Fierté Montréal, loin d'être en recul, est en progression. Quand le mouvement est arrivé aux États-Unis, certains commanditaires nous ont appelés pour nous demander si on était correct, si on avait besoin de plus d'argent, et ils ne cherchaient pas plus de visibilité. Quand ça arrive, je me dis qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Je me dis qu'on a de bons commanditaires, dit-il. Moins d'arc-en-ciel, plus d'engagement. Ce qui nous amène au fameux capitalisme arc-en-ciel. Aux États-Unis, la communauté LGBTQ+, déplore évidemment que les entreprises se détournent de leur cause. Mais plusieurs sont aussi soulagés de voir la fin de ce qu'ils considéraient souvent comme une récupération mercantile de leurs revendications, ce qu'on appelle « marketing rose » ou « pink washing ». Qu'en est-il chez nous? Je me rappelle que lorsque je suis entrée en poste, il y a 4 ans, on avait des bouteilles de vodka arc-en-ciel dans notre entrepôt. Des arcs-en-ciel partout, se rappelle Simon Gamache. 4 ans plus tard, on n'en a plus beaucoup. Les entreprises semblent moins intéressées par la visibilité, moins intéressées par le fait de s'enrouler dans l'arc-en-ciel. Mais elles ont des actions beaucoup plus ciblées pour les communautés. Il donne l'exemple d'un commanditaire qui, plutôt que de réclamer d'avoir son logo placardé partout pendant le festival, soutient maintenant des artistes queer. Le changement est dans la manière avec laquelle ces entreprises travaillent. « Je trouve ça plus sincère », dit M. Gamache. Mais ce désir d'être plus discret ne pourrait-il pas justement s'expliquer par une peur de s'afficher? « Ce ne sont pas les conversations qu'on a », me répond Simon Gamache. « Je le vois de façon très positive. » Une façon polie de dire « Hey, le journaliste, arrête de chercher la bête noire. Les nouvelles sont bonnes, prends-les. » Ces bonnes nouvelles me sont d'ailleurs confirmées par la Chambre de commerce LGBT du Québec, dont la mission est de représenter la communauté d'affaires gays, lesbiennes, bisexuelles et transidentitaires et de favoriser l'inclusion dans les milieux de travail. On voit actuellement des entreprises qui désirent réaffirmer ce genre de valeurs, l'inclusion des personnes LGBT, l'équité, la diversité et l'inclusion. Elles nous contactent et nous disent à quel point c'est important pour elles, à quel point ça fait partie du vivre ensemble au Québec, dit Thierry Arnault, président de la Chambre. Le président du conseil d'administration, Mathieu Vézina, précise d'ailleurs que le nombre de membres, autant des individus que des entreprises, a bondi de 30 % l'an dernier. Une partie de l'augmentation s'explique par des membres qui reviennent après être partis pendant la pandémie à cause de l'arrêt des activités sociales, mais la Chambre accueille aussi de nouveaux venus. Si ce qui arrive aux États-Unis se répercutait ici, on ne verrait pas une telle augmentation, affirme M. Vézina. Comme chez Fierté Montréal, la Chambre de commerce LGBT note aussi une tendance vers moins de fla-fla et plus de sincérité. On le voit, affirme M. Vézina, avec les entreprises qui font partie de notre noyau depuis longtemps, mais aussi avec celles qui se joignent à nous. Elles ont une approche beaucoup plus authentique. Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que, s'il y avait un changement politique comme aux États-Unis, des gens craindraient de perdre du financement du gouvernement? S'interroge Simon Gamache. Peut-être. Je ne dis pas qu'on est immunisé contre ça. Mais ce sont des spéculations. L'important, c'est qu'alors qu'on recule ailleurs, on continue d'avancer chez nous. Comme si la province était protégée du vent de peur de la diversité qui souffle actuellement par un bouclier. Un beau gros bouclier arc-en-ciel, avec une fleur de lys au milieu. C'était le bouclier arc-en-ciel québécois, un texte de Philippe Mercure, paru le 5 août 2025 dans la presse.
On vit ici, on travaille ici, mais on n'existe pas. Un texte de Suzanne Colpron, paru le 1er août 2025 dans la presse. Combien sont-ils? Personne ne le sait exactement. Un site du gouvernement canadien évoque le chiffre de 500 000, mais les estimations varient de 100 000 à 1 million. Ce qui est certain, c'est que leur situation est précaire. D'un côté, la menace d'arrestation, de l'autre, celle d'être exploité sans recours. Quand quelqu'un frappe à la porte, la première chose qui me passe par la tête, c'est directement l'immigration, confie Farid. Les trois hommes dont on raconte l'histoire ont demandé de ne pas dévoiler leur identité par crainte de répercussions. Âgé de 42 ans, l'Algérien vit à Montréal depuis 15 ans. Il travaille dans une manufacture, fait du ménage, aide en cuisine. Il paie un loyer, n'a jamais eu de démêlé avec la police, mais il n'a pas de papier. Il n'est pas facile d'entrer en contact avec les sans-papiers. Par définition, ils évitent d'attirer l'attention. La presse a pu s'entretenir avec trois d'entre eux grâce à l'aide de l'organisme de défense des migrants Solidarité sans frontières. Selon ce collectif fondé à Montréal il y a 22 ans, de plus en plus de personnes se retrouvent sans statut. Certaines sont arrivées avec un visa de visiteur, un permis d'études ou de travail temporaire, mais ne sont pas reparties une fois leurs documents expirés. D'autres ont vu leur demande d'asile refusée ou ont perdu leur statut à cause de retards administratifs ou de changements de critères. Et, une fois tombés dans l'irrégularité, il devient extrêmement difficile d'en sortir. Le système est tellement compliqué que même ceux qui essaient de faire les choses légalement peuvent perdre leur statut pendant le traitement de leur dossier, explique Mary Foster de Solidarité sans frontières. Dans ce contexte, le projet de loi C2, qui prévoit notamment l'abolition de la clause des 14 jours dans l'entente sur les tiers pays sûrs, suscite des inquiétudes. Cette clause permettait encore à certaines personnes de demander l'asile après 2 semaines passées au Canada sans interception. Si elle disparaît, les voies de régularisation pourraient se refermer encore davantage. Une vie cachée. On vit ici, on travaille ici, mais on n'existe pas, résume Karim, 55 ans, arrivé du Maroc à l'été 2020. Comme Farid, il vit à Montréal sans papier. Il travaille dans l'industrie automobile, partage un petit logement et envoie de l'argent à sa femme et à ses 3 enfants restés au pays. Son quotidien est rythmé par le travail et la peur. Farid, arrivé en 2009, constate lui aussi une augmentation dans son entourage. Il y a de plus en plus de personnes dans cette situation. Leur parcours diffère, mais leur précarité est la même. Celle de Mamadou, 61 ans, est marquée par une longue attente et une succession d'échecs administratifs. Arrivé de Guinée en 2001 pour demander l'asile, il a vu sa demande refusée 1 an plus tard. Il a ensuite tenté d'obtenir la résidence permanente pour motif humanitaire, sans succès. Je ne suis pas retourné dans mon pays à cause de la persécution que je vivais là-bas. C'était un problème de religion. Je ne pouvais pas y retourner, assure-t-il. Depuis 2005, il vit au Québec, sans statut. Il travaille dans la démolition ou le recyclage. En 2020, il a fait une chute de 8 mètres sur un chantier. 2 bras cassés, aucune couverture d'assurance. Je me suis débrouillé tout seul. Karim, lui, était venu avec un permis de travail 1 an et un contrat avec un employeur québécois. Mais à son arrivée à l'aéroport de Montréal, en pleine pandémie, un agent de l'Agence des services frontaliers lui a dit qu'il devait repartir. L'agent m'a dit « Tu dois rentrer chez toi ». J'ai signé des papiers, mais je suis resté. 5 ans plus tard, il est toujours là, toujours sans statut. Farid, de son côté, enchaîne les petits boulots depuis plus d'une décennie. Après presque 18 années ici, je n'ai jamais fait une infraction. Je n'ai pas de dossier criminel, mais je n'ai aucun droit. Des conditions difficiles. Tous disent travailler régulièrement, mais dans des conditions difficiles. Les employeurs savent très bien qu'on n'a pas de papier. Ils nous engagent quand même, dit Karim. Les sous-traitants, ceux qui nous trouvent du travail, connaissent notre situation. Des fois même, ils refusent de nous payer. Et on n'a pas le droit de riposter, ajoute Mamadou. Cette réalité est tolérée, estime-t-il, parce qu'elle alimente discrètement certains secteurs de l'économie. Et malgré les risques, les recours restent rares. Régulariser leur situation est devenu pour beaucoup un parcours semé d'embûches. Restez malgré tout. Tous trois vivent dans la peur. Peur d'être arrêté, dénoncé, expulsé, mais aucun ne veut repartir. Mamadou soutient sa famille à partir du Québec. Farid affirme qu'il n'a plus rien en Algérie. Karim envoie chaque mois de l'argent à sa femme et à ses enfants restés au Maroc. J'aimerais que quelqu'un nous entende. C'est notre vie qu'on vous raconte. Il y a beaucoup de gens comme nous, dit Karim. En 2022, l'ancien premier ministre Justin Trudeau avait promis un programme de régularisation massif pour les sans-papiers. Mais le projet, contesté, a été repoussé, son ambition réduite, puis il a été mis de côté par le gouvernement actuel. À l'inverse, Ottawa a renforcé les expulsions. En 2024-2025, plus de 18 000 personnes ont été renvoyées du pays par l'Agence des services frontaliers, un sommet en 10 ans. Le gouvernement vise désormais 20 000 renvois par an dans les prochaines années. C'était « On vit ici, on travaille ici, mais on n'existe pas », un texte de Suzanne Colpron, paru le 1er août 2025 dans la presse.
Attention aux conseils sur la santé mentale sur TikTok. Un texte de Axel Dansereau-Massias paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. Une nouvelle étude révèle qu'une vidéo sur 5 portant sur la santé mentale publiée sur TikTok contiendrait de la mésinformation ou de la désinformation. Une proportion pouvant avoir de réelles conséquences sur les personnes consommant ce contenu, selon les auteurs. Conseils sur la dépression, autodiagnostic de neurodivergence, produit miracle. La liste de vidéos qui circulent est longue. Devant cette réalité préoccupante, le docteur Alexandre Hudon, auteur principal de l'étude, est clair. Les répercussions peuvent être très graves, voire aller jusqu'au décès. L'aggravation de psychose, l'inobservance ou la mauvaise prise de médication. L'étude menée à l'Université de Montréal et publiée en juin 2025 est une première dans la quantification de ce phénomène, selon le docteur Hudon. Le médecin psychiatre et son équipe ont analysé 1000 vidéos dans 3 différentes langues touchant une vingtaine de sujets liés à la santé mentale. Les fausses informations peuvent pousser quelqu'un à ne plus prendre ses médicaments ou à lier erronément un problème physique à un problème mental, souligne le médecin. Celui-ci mentionne les troubles de la personnalité ou neurodéveloppementaux comme exemple pouvant avoir une implication clinique importante. Des situations qu'il voit de plus en plus dans les consultations à l'urgence psychiatrique, autant chez les enfants et les adolescents que chez les adultes. Ce qui inquiète aussi le docteur Hudon est l'arrivée des agents conversationnels qui pourraient exacerber le problème. Il nomme les intelligences artificielles comme ChatGPT qui font déjà débat au sujet des diagnostics médicaux. « Je pense qu'on va avoir un méchant problème dans notre système de santé dans les prochaines années », ajoute-t-il. De Dr. Google à Dr. TikTok. Dans l'échantillon étudié, 21% des vidéos ne citaient pas de source. 16% contenaient de la mésinformation, de la désinformation involontaire, et 6% contenaient de la désinformation. Ces proportions se sont révélées en dessous des attentes d'Alexandre Hudon, qui ne minimise toutefois pas les dangers du phénomène. Avant, on parlait de Dr. Google, mais maintenant, on va prendre de l'information véhiculée sur les médias sociaux. On l'applique pour finalement se rendre compte que, oups, ce n'est pas la meilleure idée, indique le chercheur. Outre sonner l'alarme sur ce phénomène, l'étude vise à outiller les professionnels de la santé qui veulent s'aventurer sur TikTok. Pour ce faire, les chercheurs leur prodiguent quelques conseils basés sur les données qu'ils ont récoltées. Citer ses sources, éviter l'opinion, annoncer sa formation professionnelle et ne pas trop simplifier les questions de santé mentale. La santé mentale, c'est très complexe, c'est très personnel aussi. Ça demande une approche qui est personnalisée. Quand on essaie de ramener ça sur une phrase ou deux qui généralise le trouble, ce n'est pas la bonne information qui en ressort, résume le docteur Hudon. Son étude reste limitée à un échantillon largement en anglais, mais donne un bon aperçu de la réalité, estime-t-il. C'était « Attention aux conseils sur la santé mentale sur TikTok », un texte de Axel Dansereau-Massias paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
Premier long métrage pour Jean-Pierre Bergeron, All Guys in Bed, ou Pas de honte à être vieux. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 5 août 2025 dans le magazine Fugue. Si l'on connaît Jean-Pierre Bergeron pour ses rôles au cinéma et à la télévision depuis des décennies, ce n'est que depuis peu que l'on peut apprécier son travail de réalisateur. Plus de 10 ans après avoir réalisé « Alone with Mr. Carter », un court-métrage mettant en vedette entre autres Robert Naylor, celui que l'on a connu, parfois comme un dur dans des œuvres comme « Les filles de Caleb », « Les doigts croches », « L'eau chaude, l'eau frette »,« Faits divers » ou « Le purgatoire des intimes », signe son premier long-métrage « All Guys in Bed », un film qui explore les relations entre personnes homosexuelles âgées à l'ère numérique actuelle. L'œuvre, présentée début août au Festival Fantasia, a de quoi réjouir son réalisateur, à qui nous avons pu parler. Quelle est la genèse de ton premier long-métrage, « Old Guys in Bed » ? Après le succès de « Alone with Mr. Carter », j'ai essayé d'avoir du budget pour faire un film $1 million. Je pensais que ça allait me prendre 6 mois, 1 an. Eh bien non. Il y a beaucoup de monde qui veulent 1 million pour faire un film. Tout ça pour dire que j'ai passé 8 ans à développer 2 longs-métrages, qui seront les 2 autres films de la trilogie. Je n'étais plus capable d'être la personne qui voulait faire son premier long-métrage. Je n'en parlais même plus à mes amis. J'étais gêné. Là, je me suis dit, je peux en écrire un autre. Où, dès le départ, c'est écrit pour être low budget, avec peu de personnages, peu de lieux. Mais je me suis dit aussi, faut que ce soit quelque chose que tu aimes autant que les 2 autres. Ce qui est le fun avec les films low budget, c'est que les films se font. Le film donne une visibilité aux gays âgés, qu'on voit rarement à l'écran. Le film montre la vie très réelle de milliers et de milliers de gays âgés à travers le monde. Ça montre vraiment ce qui se passe dans ce milieu, notamment en ligne. Et en ligne, c'est difficile de faire confiance aux gens. Ton film fait référence à d'autres œuvres. Y a-t-il des films qui t'ont inspiré dans ce processus? J'ai été très marqué par Sunday Bloody Sunday de John Schlesinger. Il y avait un gay âgé, joué par Peter Finch, qui est un homme extraordinairement beau, et Murray Head, qui était son jeune amant. Dans le temps, on appelait ça « avoir des amants ». C'est fou. C'est la première fois que, dans un film non-porno, 2 hommes adultes se frenchent. Et moi, dans mon film, je me suis dit « il faut qu'il y ait 2 hommes âgés qui se frenchent ». Dans le même esprit, il y a un plan qui montre longuement le corps nu d'un homme âgé. Ça, c'est comme ma revanche sur Roger Vadim. Je m'explique. Roger Vadim, il a fait « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot dans les années 1950. Ça a été très, très populaire et ça a un peu fait scandale. Il y a un plan assez célèbre où la caméra se promène sur le corps de Bardot, de dos. Et moi, je me dis, si Roger Vadim avait le droit de faire ça, comment ça se fait que ce n'est jamais arrivé pour le corps d'un homme âgé? Ce plan-là, il est très important pour moi, politiquement. Tu as publiquement fait ta sortie du placard plus tard dans ta carrière. As-tu senti un jugement? Je ne pense pas. Quelque chose dont je suis très fier, c'est que quand je suis sorti du placard, je m'étais dit « La première fois que tu vas avoir un film qui sort, tu vas sortir du placard publiquement dans les médias. » Moi, j'étais déjà sorti dans le métier avec mes amis et ma famille. Mais là, je pouvais commencer à faire des entrevues où je dis « Ben oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont gays. » Non, ça n'a pas de bon sens. J'ai pensé à ma carrière d'acteur et je me suis dit « Écoute, moi je suis content de ma carrière, mais si la conséquence c'est que je suis casté juste dans des rôles de gay, et donc beaucoup moins, ce sera ça. » Dans les faits, on a continué à m'approcher pour le même genre de rôle, c'est-à-dire souvent des hommes hétéros, ou qu'on présume hétéros, des figures d'autorité, des policiers, des chefs d'entreprise, etc. Mais on m'a approché plus souvent pour des rôles gays. Avant ça, je ne sais pas, peut-être que le monde avait peur que je dise non ou que je sois insulté. Depuis lors, j'ai joué une transe dans Complexe G, ensuite un vieux gay, un des rares, dans Faits divers. Donc, en fait, mon casting s'est élargi. Tu viens de jouer dans La dernière communion. Raconte-nous. Oui, avec Guy Jodoin et Fayolle Jean. On joue trois frères qui défroquent du jour au lendemain. C'est intéressant de voir que moi, je joue le vieux grincheux hétéro à la recherche de la fille qu'il avait ghostée, avant même que le mot existe, à 18 ans. Guy Jodoin, que je connais comme hétérosexuel, joue un gay. C'est intéressant de voir ça. Tu es très ouvert par rapport à ta gérontophilie. T'a-t-on déjà critiqué à ce sujet? Quand j'ai commencé mes vies de jeune gay, je me suis fait taquiner plusieurs fois. On me disait... « Prends-toi pas un appartement au troisième étage, ils vont faire une crise cardiaque. » Ça me faisait encore une autre différence. Il y a tout un discours à l'effet que les personnes gérontophiles ont eu des pères inadéquats et qu'on recherche notre père. Ça ne tient pas debout. C'était important pour moi, dans le film, de mentionner ça. Il y a un malentendu. On n'est pas des malades parce qu'on aime les hommes âgés. C'est simplement comme ça. C'était... Premier long métrage pour Jean-Pierre Bergeron, All Guys in Bed, ou Pas de honte à être vieux. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 5 août 2025 dans le magazine Fugue.